Imaginez que vous viviez sur une île lointaine du Pacifique, dans un petit village retiré du monde, en compagnie de quelques familles d'indigènes qui, comme vous, vivent encore dans des conditions tout à fait primitives. Et un jour, pendant que vous êtes sur la plage en train de pêcher, vous trouvez un curieux objet qui vient de s'échouer sur le rivage. Un téléphone portable. Bon, mais pour vous, évidemment, ce n'est pas un téléphone portable. Tout ce que c'est un objet, plus ou moins rectangulaire, dans une matière qui vous est inconnue, avec des espèces de boutons qui s'enfoncent avec des caractères étranges gravés dessus. Vous avez bien sûr la profonde intuition que cet objet n'est pas juste un coquillage. Mais vous ne savez ni à quoi ça sert, ni comment ça marche, ni où chercher les réponses. Et cet après-midi, mes amis, on est un peu dans la situation de ce sauvage vivant à l'âge de la pierre qui cherche à percer les mystères de la téléphonie par satellite. Nous avons la profonde conviction qu'il y a un Dieu, mais par nous-mêmes, il nous est impossible de savoir comment il est, ni ce qu'il fait. Il nous est impossible, par nous-mêmes, de connaître Dieu. Ça, c'est le point de départ. On en a parlé un peu la dernière fois au sujet de la révélation, de la nécessité d'avoir une révélation spéciale qui nous vienne de la part de Dieu. Mais Dieu, si nous, on n'a pas la capacité de le connaître, Dieu, lui, a la capacité de se faire connaître. Dépendre de la Bible pour savoir qui est Dieu et ce qu'il fait, c'est comme lire une notice explicative pour comprendre à quoi sert un téléphone portable et comment ça marche. Mais le mode d'emploi n'a pas pour but de faire comprendre à l'utilisateur toute la technologie de la téléphonie mobile, n'est-ce pas? Comme par exemple le procédé de fabrication de tous les composants électroniques ou les différentes normes de radiocommunication telles qu'on les trouve dans les réseaux AMPS, UMTS, GPRS, CDMA 2000, HSDPA, etc., etc. Vous ne savez pas du tout de quoi je parle, ça ne vous empêche pas d'utiliser vos téléphones portables, n'est-ce pas? Le mode d'emploi, sans être exhaustif, a pour but d'être utile et suffisant pour que l'utilisateur puisse faire sens de l'appareil et l'utiliser à bon escient. Eh bien, de la même façon, mes amis, la Bible ne nous permet pas de tout savoir sur Dieu. La Bible ne nous permet pas de tout savoir sur Dieu. Mais elle nous permet de savoir tout ce qui est utile et suffisant pour le connaître personnellement et pour faire sens de notre existence. D'accord? Donc tout ça, on l'a évoqué un peu la dernière fois au sujet de la révélation spéciale qui est la Bible, qui est utile, qui est suffisante, mais qui n'est pas exhaustive. Hein? Alors, on se pose deux questions cet après-midi. D'abord, qui est Dieu? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Qui est Dieu? Comment est-il, on pourrait dire? Comment est Dieu? Et deuxièmement, comment est-ce qu'il interagit avec le monde, avec nous? Vous avez le plan. Le plan est assez détaillé. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il est plus détaillé que la dernière fois. Donc peut-être que c'est bien, comme ça vous aurez plus d'éléments à ramener chez vous. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement vaste. Chaque sous-partie mériterait un exposé d'une heure. Alors, j'ai conscience que dans les 30 ou 40 prochaines minutes, ça va être extrêmement condensé. Donc, n'hésitez pas à noter, par exemple, des remarques ou des questions s'il y a quelque chose qui vous paraît vraiment pas complet, qui mérite d'être complété. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de notre temps ensemble, ce sera l'occasion de soulever ces questions et puis d'y réfléchir ensemble, de discuter sur tous ces points. D'accord? Premier point. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe chapitre 45, verset 6? Moi, je vais lire Deutéronome 4, verset 39. Ou si quelqu'un peut déjà préparer Ésaïe 45, verset 6. On va faire ces quelques lectures. Je précise tout de suite que les lectures bibliques que nous allons faire aujourd'hui, ce sont des versets, souvent un peu isolés, qui sont emblématiques des doctrines que nous allons évoquer, d'accord? Les doctrines ne reposent pas juste sur un ou deux versets. D'accord? Les doctrines en théologie réformée reposent sur l'enseignement de la Bible en entier. Mais comme on ne va pas lire la Bible en entier à chaque fois qu'on veut parler d'une doctrine, j'ai relevé quelques versets qui sont emblématiques. Mais j'ai bien conscience que les doctrines ne reposent pas sur ces seuls versets que je vous cite. Alors, pour notre premier point, il y a un seul Dieu transcendant et immanent. Je vous lis Deutéronome 4, 39, si quelqu'un peut préparer déjà Ésaïe 45, verset 6. Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas et qu'il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, verset 6.
C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre.
Merci. Et moi, je vous lis un petit extrait du psaume 139. Je vais lire versets 7 et 7, 8, 9. On verra où je m'arrête. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Etc. Il y a un seul Dieu, ça c'est l'affirmation de la Bible, c'est le fondement du monothéisme des Juifs et plus tard du christianisme, et cette affirmation évidemment s'oppose à l'affirmation des athées, de l'athéisme, qui disent, quant à eux, il n'y a pas de Dieu. D'accord ? Athéisme, a privatif, pas de Dieu. En France, on rencontre beaucoup d'athées, c'est un des pays où le taux d'athées est le plus élevé dans le monde. Donc, il faut le savoir, quand on est chrétien, on n'est pas athée. Plusieurs arguments existent contre l'athéisme, mais il y en a un qui est fondamental, et c'est un argument philosophique. Et je suis sûr que Jonas pourra en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'il a beaucoup réfléchi à ces questions. Mais le voici, cet argument. Si quelque chose existe, Dieu existe. Si quelque chose existe, Dieu existe. Sinon, il faudrait expliquer l'existence de quelque chose sans faire appel à l'existence d'un Dieu, et cela, ce serait absolument impossible du point de vue de la logique ou du point de vue de la philosophie. Je pense que peut-être, Dieu voulant, dans quelques mois, Jonas aura l'occasion de développer ces questions avec nous. On en discute actuellement. C'est un peu son domaine, c'est l'apologétique, la défense de la foi, et notamment au niveau philosophique vis-à-vis de tous ces autres points de vue qui font concurrence au christianisme. Il n'y a que deux possibilités, mes amis. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Soit il y a un Dieu, soit il n'y a pas de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens se positionnent dans un des deux camps, mais ils ne réfléchissent pas aux conséquences de ces affirmations-là. Il y en a qui disent « Moi, je crois en Dieu, oui. » Mais bon, ils ne prennent pas le temps de réfléchir à qui est Dieu, à chercher à savoir comment il est, à ce qu'il attend d'eux, etc., etc. Pourtant, si on croit qu'il y a un Dieu, la moindre des choses, ce serait d'essayer de savoir qui il est et ce qu'il attend de nous. Et puis il y a les autres qui disent non, moi je ne crois pas en Dieu, moi c'est impossible, Dieu n'existe pas, la science a bien démontré que... Mais ils ne réfléchissent pas non plus aux conséquences d'une telle affirmation. Et je crois qu'on devrait encourager les gens à réfléchir aux conséquences de ces deux seules possibilités. La Bible en tout cas affirme qu'il y a un Dieu. Quand on affirme qu'il y a un Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux. L'idée selon laquelle il y a plusieurs dieux, c'est l'idée du polythéisme. Poly, plusieurs, théisme, Dieu. D'accord ? S'il y avait plusieurs dieux, malheureusement, pour eux, pour ces dieux, s'il y avait plusieurs dieux, aucun d'eux ne serait vraiment Dieu. Ce n'est pas possible, par définition. D'accord ? Mais le polythéisme, on le rencontre peut-être un peu moins souvent actuellement, mais c'était la religion de l'Égypte antique, la religion de la mythologie gréco-romaine, la religion populaire chinoise, croit encore qu'il y a plusieurs dieux. La Bible, quant à elle, affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et d'ailleurs, c'est une particularité d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Et il y a cette affirmation vraiment frappante du psaume 97 qui dit « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Au-dessus de tous les dieux. Quand le psalmiste emploie ce terme de dieu, au pluriel, pour les autres dieux, il n'est pas en train de dire que ces dieux-là sont réellement des dieux, Seulement, ils sont appelés des dieux par ceux qui leur vouent un culte. Et ce que le psalmiste est en train d'affirmer, qui est extraordinaire, c'est que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, il est unique et il est au-dessus de tous. Il n'y a pas de rival, d'accord ? Pas de concurrence pour le Dieu de la Bible. Ok, on poursuit. La Bible s'oppose également à ce qu'on appelle le panthéisme. Pan, qui veut dire tout, et théisme, Dieu. Alors ça, c'est l'affirmation, vous l'avez, selon laquelle Dieu est tout ou tout est Dieu. Autrement dit, la terre, c'est Dieu. L'univers, c'est Dieu. Et cette idée-là, on la trouve de nos jours assez répandue, vous savez, notamment en France, avec tout le mouvement du Nouvel Âge. C'est une idée qui est sous-jacente même à la philosophie de l'écologisme, où l'on va vouer un culte à la terre, d'accord, comme étant une sorte de déesse, la déesse mère de tous les vivants. Donc on va la protéger, on va s'occuper d'elle, on va lui vouer un culte, parce que c'est d'elle que provient la vie, et ainsi de suite. La Bible ne s'oppose pas du tout à ce qu'on protège l'environnement, la terre, mais pas parce qu'elle est une déesse, parce qu'elle est une création de Dieu, d'accord, et donc on doit en prendre soin. Et vous voyez la nuance entre les deux. Mais souvent, dans l'écologisme et dans le Nouvel Âge, on a cette idée sous-jacente selon laquelle Dieu est tout. Dieu est en nous, dans les hommes, Dieu est dans la nature, Dieu est dans les animaux, Dieu est dans les arbres. Et donc il faut pratiquement offrir des sacrifices à ce Dieu-là pour le satisfaire, ce Dieu-là. Ça, c'est l'idée selon laquelle Dieu est immanent, mais seulement immanent. Il est présent en nous, immanent, c'est-à-dire qu'il demeure en nous, dans le monde, mais seulement dans le monde. Tandis que la Bible ajoute que Dieu est dans le monde, certes, mais il est également au-dessus du monde, il est transcendant. D'accord ? Il dépasse le monde. Ce n'est pas faux que rien n'échappe à la présence de Dieu, parce que si quelque chose échappait à sa présence, il ne serait pas Dieu. Mais la Bible affirme que Dieu est transcendant et qu'il y a une distinction essentielle et fondamentale à maintenir entre le Créateur et la création. D'accord ? Dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul dénonce les gens qui vouent un culte aux créatures plutôt qu'au Créateur. Et parmi ces créatures, il y a les animaux, il y a les plantes, et il y a l'homme lui-même. Oui ?
Le panthéisme s'est dit actuellement, c'est parce que beaucoup de gens ont du mal à admettre l'existence d'un Dieu personnel. Je pense que c'est ça. Et quand on parle avec les gens, ils disent que les chrétiens, qui défendent l'idée d'un Dieu personnel, font de l'anthropomorphisme. Ils projettent sur une énergie. À mon avis, les vrais athées sont très peu nombreux. On a plutôt affaire à des panthéistes qui imaginent bien des forces à l'œuvre dans l'univers, mais qui refusent de conférer une personnalité à ces forces.
Ouais. Très bonne remarque, ouais. Absolument. Absolument. Et tu as raison, il y a très peu de vrais athées. En fait, à mon avis, il n'y en a pas. Il n'y a que des gens qui font profession d'athéisme, mais le véritable athéisme n'existe pas. On est obligé d'avoir un dieu, donc si on ne reconnaît pas le vrai dieu, on va avoir un autre dieu, un faux dieu. Enfin, c'est mon avis. Il y a une autre idée qui n'est pas biblique non plus, c'est l'idée du déisme. Le déisme. On croit en un dieu, mais en un dieu lointain, un dieu absent. Un dieu absent. Un dieu qui a créé le monde, qui a fixé les lois de la nature, mais après qui laisse l'horloge tourner toute seule et qui s'est retiré. D'accord, ça c'était l'idée d'un certain nombre de philosophes des Lumières. C'est l'idée de ceux qui croient à une religion naturelle. Donc c'est pas qu'on n'a pas besoin de révélation, c'est juste que d'après eux, il n'y a pas de révélation. Le monde, c'est tout ce qu'il y a. Et en étudiant le monde, on peut savoir un peu comment est Dieu, mais on n'a pas besoin de religion, de révélation supplémentaire. C'est aussi une idée qui est sous-jacente à la franc-maçonnerie, parce que les francs-maçons croient au grand architecte. Okay, qui a créé le monde, qui a fixé les lois de l'univers, mais à part ça, ce n'est pas un Dieu qui se révèle dans une révélation spéciale comme la Bible. ceux qui sont déistes sont souvent d'ailleurs des universalistes. Ils pensent que toutes les religions se valent plus ou moins, puisque bon, de toute façon, ils croient en un Dieu. Après, la révélation spéciale, quant à elle, elle est un peu à dénigrer. D'accord ? Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes, d'après eux. Mais la Bible affirme, au contraire, que Dieu intervient dans l'histoire. Il a créé le monde, certes, mais ensuite il ne s'est pas retiré. Il continue d'être proche de sa création, d'être présent dans sa création, et d'intervenir même dans l'histoire des hommes, ce qu'on va développer dans quelques minutes.
Alex ?
Oui ?
Juste là-dessus, parce qu'une fois j'ai vu un graffiti, ouais. Il est dans ce sens, mais même plus loin, il disait, mais que foutait Dieu avant la création ?
Ouais.
Il y en a même qui questionnent l'absence de Dieu avant même que la création soit.
Ouais.
Il y a un livre d'ailleurs qui diffusait dans les livres catholiques, hein, qui est c'est la question que pose un jeune, et puis après il y a un curé qui voit la question.
Mais
ben, ouais.
Je pense que c'est aussi une forme de réponse peut-être au déisme. C'est que le déisme qui questionne l'absence de Dieu après la création, c'est qu'on a un rapport tout le temps chronologique à Dieu, et que tant qu'on a ce rapport-là, des fois, voilà, il y a des questions qui sont sans réponse.
Mmh. Ouais.
Alors que si on essaye de ne pas être sur de l'immanence, quand on parle à Dieu, mais sur de la transcendance, à ce moment-là, toutes ces questions n'ont plus lieu.
Ouais. Je pense qu'on va venir un peu à ces questions-là dans la un peu plus loin quand on va parler de la souveraineté de Dieu, de ses décrets éternels. On va évoquer un peu ces questions-là, je pense. Ouais. Merci pour ces remarques en tout cas. Deuxièmement, donc il y a un seul Dieu d'après la Bible, transcendant et immanent, ou immanent et transcendant. Il y a aussi un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes. Et là, vous l'avez deviné, on touche au mystère de la doctrine de la Trinité, mais qui est, si elle est mystérieuse, elle n'en est pas moins essentielle à la foi chrétienne. Alors, j'ai réuni trois versets emblématiques, encore une fois. Si quelqu'un peut lire Matthieu 28, verset 19, quelqu'un d'autre, 2 Corinthiens 13, 13, et moi je lirai la dernière référence, Galates 4, verset 6. Allez-y.
Bon, moi je vais lire Matthieu, alors. 28-19, allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Et puis Galates 4, 6, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ce sont quelques versets, il y en a d'autres dans la Bible qui sont, encore une fois, je dirais emblématiques, parce qu'on voit dans ces versets les trois personnes de la Trinité œuvrant ensemble, enfin en tout cas dans mises ensemble. Ce qui est frappant dans le verset de Matthieu 28, 19, c'est que quand Jésus dit les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le nom, c'est un nom singulier, c'est le nom. Ce n'est pas les noms ou le nom du Père et puis le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit, c'est le nom unique du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Puis il y a d'autres versets comme ça. Enfin, la Trinité, encore une fois, on pourrait passer plusieurs mois là-dessus. Je vais essayer d'aller vite, malheureusement, je confesse combien c'est inapproprié quand on considère l'enjeu de ces questions. Mais bon, allons assez vite. Jonas, on a parlé un petit peu dans sa prédication la semaine dernière sur le Saint-Esprit. La doctrine de la Trinité s'oppose à plusieurs hérésies. La première, qu'on appelle le modalisme. Alors, on va mentionner pas mal de noms qui finissent par « isme ». C'est des noms un peu compliqués, vous n'êtes pas obligé de les retenir, mais il faut appeler les choses par leur nom. Hein. L'idée modaliste, c'est l'idée selon laquelle le Fils et le Saint-Esprit sont des modes du Père. C'est-à-dire le Père, il n'y a qu'un seul Dieu, seulement il se manifeste avec des apparences différentes en fonction des circonstances. Parfois il se manifeste comme étant Jésus, parfois il se manifeste comme étant le Saint-Esprit, et parfois il se manifeste comme étant le Père. Un seul Dieu, mais pas trois personnes. trois apparences, trois modes d'apparence du seul Dieu. C'est une idée séduisante qui est issue d'une dispute théologique entre ceux qui cherchaient d'une part à préserver l'unité de Dieu. Dieu est un, ça c'est tellement fondamental dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et puis ceux qui cherchaient à préserver la distinction des personnes, parce que le Nouveau Testament parle explicitement de Jésus comme étant Dieu et du Saint-Esprit comme étant Dieu. Donc il y avait cette tension entre ceux qui voulaient préserver l'unité de Dieu et ceux qui cherchaient à préserver la distinction des personnes. Et les modalistes, eux, tendaient plutôt à vouloir favoriser l'unité de Dieu aux dépens des personnes. Et il disait qu'il y a un seul Dieu, voilà, je le dis, hein, le Père, qui apparaît sous des formes différentes. Cette doctrine qui n'est pas conforme à la Bible, et c'est pour cette raison qu'on peut l'appeler une hérésie, elle porte d'autres noms. Elle porte le nom de sabellianisme, par exemple, du nom d'un des théologiens des premiers siècles qui a vraiment mis en avant cette doctrine. Le monarchianisme, du nom ce nom provient de l'idée qu'on donne beaucoup. Une prééminence au Père, c'est le monarque, donc le monarchianisme, qu'un seul Dieu, le Père, qui se manifeste de façon différente. Et puis il y a des doctrines qui en découlent, comme celle qu'on appelle le patripassianisme. C'est la doctrine selon laquelle sur la croix, c'est le Père qui a souffert, d'accord ? Puisque on est dans le cadre du modalisme, puisque ce ne sont pas des personnes distinctes, c'est un seul Dieu. Sauf que quand il était sur la croix, il était sous la forme ou dans le mode du Fils, et donc le Père a souffert. Mais ces idées-là ne sont pas bibliques. Il y a une distinction entre les personnes de la Trinité. Et ceux qui ont voulu préserver la distinction des personnes, ils l'ont fait parfois au détriment de l'unité de Dieu. Et ça, c'est par exemple l'idée des arianistes, de l'arianisme selon laquelle il y aurait différents degrés de divinité entre les personnes, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Donc le Père, lui, est pleinement Dieu. Le Fils est Dieu, mais dans une moindre mesure. D'accord ? Et l'Esprit Saint est Dieu, mais dans une moindre mesure. D'accord ? Il y a bien trois personnes, mais comme on ne peut pas dire qu'il y a trois dieux, alors seul le Père est vraiment, pleinement Dieu. Les témoins de Jéhovah, par exemple, de nos jours, maintiennent cette idée. On trouve cette idée également dans certains courants libéraux. D'accord ? Voilà. Et puis, on a aussi, sur votre feuille, vous avez aussi la doctrine de l'adoptionnisme, la doctrine selon laquelle Jésus est devenu, dans le temps, le Fils de Dieu. D'accord ? Il est né simple homme, mais au moment de son baptême, au moment où le Saint-Esprit est descendu et que Dieu l'a déclaré comme étant son fils, là, il est devenu fils de Dieu, et donc Dieu. Ça, c'est un genre de prolongement de la doctrine selon laquelle le Père est supérieur en divinité. Jésus est devenu Dieu. Ok, mais tout ça, c'est pas biblique. Oui, vas-y, je t'en prie.
Ouais. Ça m'est arrivé qui sont, moi je connais par exemple David Orban, une dame qui est juste à la vie, qui est dans la troisième catégorie, qui pense que Jésus est devenu Dieu, a été élevé à la divinité. Est-ce qu'il faut reconnaître à la suite de tout ce qu'il a souffert, toute son obéissance, est-ce qu'il faut reconnaître ces personnes comme des chrétiens ou pas ? La même chose pour les arrières.
Je voulais faire une relation humaine, leur faire comprendre que Jésus était à la droite de Dieu.
C'est pas aussi évident que ça, parce qu'ils ont développé leur propre exégèse des Écritures, qui est assez serrée. Mais pour nous, est-ce qu'il faut considérer qu'on a affaire à des chrétiens, ou à des gens qui ne sont pas chrétiens ? Ce sont des frères ou pas ?
C'est une excellente question. On a qu'à la soulever après, tout à l'heure dans la deuxième partie. C'est une très très bonne question, je pense que ça mérite développement. On a qu'à la mettre de côté. Et on la soulèvera tout à l'heure, d'accord, à la fin de l'exposé. C'est une excellente question. Mais vous voyez, je crois que ces différentes hérésies procèdent de tentatives qui ont été faites d'expliquer, en quelque sorte, si j'ose dire, la technologie de Dieu. Comme on essaierait d'expliquer la technologie du téléphone portable, ce qui n'est pas à notre portée, enfin, en tant que simple utilisateur. On essaye d'expliquer d'expliquer Dieu tout simplement. Mais la Bible n'explique pas Dieu. La Bible nous donne tout ce qui est utile et suffisant pour le connaître, mais elle n'explique pas Dieu, sans doute parce que l'homme ne peut pas le comprendre. Si l'homme pouvait comprendre Dieu, l'homme serait Dieu. Il serait supérieur à Dieu. Mais voici en tout cas ce que dit la Bible, voici quelle est la doctrine chrétienne depuis les premiers siècles, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe éternellement en trois personnes. Les trois personnes de la Trinité sont d'une seule substance, bien que différentes en tant que personnes, et du coup elles sont égales entre elles sont égales en puissance et en gloire. Il n'y en a pas une qui est plus Dieu que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus glorieuse que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus puissante que l'autre. Elles sont toutes les trois Dieu. En même temps, il y a une hiérarchie parfaite en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a une... Si elles sont égales en puissance et en gloire, qu'elles font toutes la même chose, les trois personnes de la Trinité. Le Père n'est engendré, comme le dit la Confession de foi de Westminster, le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils, quant à lui, est éternellement engendré du Père, et le Saint-Esprit, quant à lui, procède éternellement du Père et du Fils. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, par exemple, il dit « Dieu est le chef de Christ ». Et à partir de cette affirmation, il dit « C'est pourquoi l'homme est le chef de la femme, ou de sa femme, enfin, selon les interprétations de ce passage ». Mais en tout cas, vous voyez, il y a des applications concrètes, ne serait-ce que pour le genre humain. Dieu a dit « Créons l'homme à notre image, homme et femme ». Il les créa. La diversité qui existe au sein de l'unité du genre humain, entre les hommes et les femmes, elle émane, elle reflète la diversité qui existe au sein de Dieu en tant que Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Personnes égales en gloire et en puissance, mais différentes en rôle. Et même, il y a même un rapport, je dirais, d'autorité, au sens, encore une fois, au sens parfait, du terme, pas au sens entaché de péché dont nous le comme nous le connaissons ici-bas, une autorité parfaite en Dieu. Le Fils obéit au Père. Le Saint-Esprit obéit au Père et au Fils. Et dans un certain sens, et nous avons là, je veux dire, le fondement, l'origine de ce que c'est que la soumission au sens chrétien, au sens biblique. D'accord ? Ce n'est pas un asservissement, c'est une soumission volontaire à une autorité légitime. Petit c, on a dit donc qu'il y a un seul Dieu, transcendant et immanent, un seul Dieu en trois personnes. Maintenant, il y a un seul Dieu, immuable, omniscient et souverain. Si quelqu'un peut prendre Jacques 1, verset 17, moi je lirai Éphésiens 1, verset 11. Je lis Éphésiens 1, verset 11. En lui, donc en Christ, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon, alors écoutez bien, c'est ici la partie importante, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Il parle de Dieu ici. Nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Jacques 1, verset 17.
Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.
Il n'y a ni changement ni ombre de variation en Dieu. Ces idées-là s'opposent à des mouvements dont vous n'avez peut-être pas vraiment entendu parler. Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que vous y serez confronté un jour. L'idée, tout d'abord, que Dieu évolue en même temps que l'univers. C'est ce qu'on appelle la théologie du process. Selon cette idée, Dieu a créé un univers caractérisé par l'évolution et le changement. Dieu interagit avec l'univers dans le cadre de cette évolution. Dieu influence l'univers, mais il ne le contrôle pas, d'après cette théorie. Il ne s'appuie pas sur des versets, il s'appuie sur la philosophie. Mais la Bible dit que Dieu ne change pas et qu'il est maître de toutes choses. Ok, l'univers change, l'univers évolue dans une certaine manière, mais pas indépendamment du contrôle que Dieu, opéré par Dieu. Donc Dieu n'évolue pas. L'univers peut-être évolue, l'univers change, mais Dieu, lui, ne change pas. La deuxième idée, c'est celle qui est peut-être un peu plus courante dans des milieux, en tout cas plus proche des milieux protestants normaux, on va dire. C'est l'idée selon laquelle Dieu ne sait pas tout de l'avenir. Encore une fois, ça c'est une idée qui émane, à mon avis, de spéculation philosophique. D'après ces gens-là, l'avenir ne peut pas être connu puisque l'avenir n'existe pas. Si l'avenir n'existe pas pour nous, il n'existe pas pour Dieu non plus. Et donc Dieu ne peut pas connaître l'avenir. Vous avez suivi la logique ? Mais le Dieu de la Bible n'est dépendant de rien, pas même du temps. Ça rejoint un peu tes remarques tout à l'heure par rapport à ce que Dieu faisait avant la création. Dieu est éternel. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités par le temps et par l'espace. Mais Dieu n'est limité par rien, ni par l'espace, ni par le temps. Et donc, la Bible affirme que Dieu a décidé d'avance tout ce qui doit arriver dans l'histoire. Cela, on le verra dans quelques instants plus en détail. Et quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte dans plusieurs passages que la préscience de Dieu, le fait qu'il connaisse les choses d'avance, c'est quelque chose qui est totalement admis et totalement présupposé par les apôtres dans leurs prédications et leurs enseignements. C'est l'apôtre Pierre, par exemple, qui dit que Dieu nous a choisis selon sa préscience. L'apôtre Jacques, dans le cadre de sa prédication, dans Actes chapitre 15, qui dit que Dieu a fait ces choses qui étaient connues de toute éternité. Connues de toute éternité. Donc on ne va pas s'étendre sur ces points-là. J'ai mis, petit dé, quelques autres attributs de Dieu, encore une fois. Ce n'est pas du tout exhaustif, parce que on pourrait parler de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant l'éternité. On n'aura pas épuisé tout ce qu'il y a à dire à son sujet. Mais quelques éléments quand même qu'il faut retenir. Dieu se suffit à lui-même. Dieu se suffit à lui-même. Je vous laisserai regarder les passages, on ne va pas les lire. Mais Dieu se suffit à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'avait pas besoin de créer. Ok ? Ne vous imaginez pas un seul instant que Dieu a besoin de vous. Ok ? Ou que Dieu avait besoin... que Dieu a ressenti un besoin irrépressible de créer l'univers. Non, il n'en avait pas besoin. Deuxièmement, Dieu est juste. La définition même de la justice se trouve en Dieu. Sans Dieu, les notions de bien et de mal seraient absurdes, parce que qui pourrait les définir ? Impossible de se tourner vers Dieu et de lui dire « c'est injuste ce que tu fais ». Impossible de faire ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en disant à Dieu qu'il est injuste, vous êtes en train de rendre... vous êtes en train de vous référer à une justice qui serait supérieure à Dieu lui-même. Et donc, vous êtes en train de détruire le caractère divin de Dieu. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il n'est pas Dieu. Vous êtes en train d'exiger de lui qu'il rende des comptes à quelqu'un d'autre. Donc, impossible de dire ça. Dieu est juste. La définition de ce qui est bien et mal est en lui. Enfin, Dieu est bon. Ça, c'est une affirmation très importante dans toute la Bible. Quand Dieu a créé le monde, dès le premier chapitre de la Bible, il crée les choses, chaque jour de la création, il crée une partie du monde et puis il regarde et le texte dit « Dieu vit que cela était bon ». La création de Dieu était bonne parce qu'elle venait de lui, d'un Dieu bon. Donc ce qu'il a créé était bon. Ses desseins sont bons parce que ses desseins sont conformes à son caractère. Dieu est bon et nous ne devons jamais en douter. Et puis, vous pouvez compléter la liste. Voici donc, au moins en partie, comment Dieu s'est révélé à nous dans la Bible en ce qui concerne qui il est, comment il est. Depuis toute l'éternité et pour toute l'éternité. Dieu ne change pas, rappelez-vous. Beaucoup de gens disent croire en Dieu, mais ne s'intéressent pas à lui. Comme je le disais tout à l'heure, ils ne cherchent pas à savoir comment il est vraiment. Mais l'idée que nous avons de Dieu est pourtant fondamentale. C'est probablement l'opinion la plus importante que l'on puisse avoir et dont le plus grand nombre de choses dépendent. En France, on aime bien avoir des opinions sur tout. On a des opinions sur tout, même si on n'a jamais réfléchi aux questions qu'on nous pose. On a toujours une opinion sur tout. On aime discuter. Mais l'opinion la plus importante qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on a de Dieu. Dieu n'est pas juste quelqu'un de lointain et d'inactif. Au contraire, il est proche, comme on l'a dit. Il est personnel, il est transcendant, il est immanent en même temps, il est souverain. Il agit, il fait des choses. Mais qu'est-ce qu'il fait ? On va en parler dans quelques instants. J'attire juste votre attention sur ce livre. Vous avez les références à la fin de la deuxième page, La connaissance de l'Éternel, un classique d'un auteur qui s'appelle Tozer. Je vous lis juste la table des matières. Premier chapitre, la nécessité d'entretenir une vision correcte de Dieu. Deuxième chapitre, Dieu incompréhensible. Troisième chapitre, un attribut divin, une vérité sur Dieu. Quatrième chapitre, la Sainte Trinité. Et ensuite, Dieu existe de lui-même. L'autonomie de Dieu, l'éternité de Dieu, l'infinité de Dieu, l'immuabilité de Dieu, la divine omniscience, la sagesse de Dieu, l'omnipotence de Dieu, la transcendance, etc., etc., etc. Je recommande vraiment ce livre parce que c'est très accessible et en même temps, ça nourrira votre piété personnelle. Hein, l'idée que l'on a de Dieu, c'est ce qui a la capacité de nourrir notre piété comme rien d'autre. Écoute, Tozer, il est réformé, oui, mais je ne sais pas à quel point, mais il est réformé. Tu sais peut-être, Jonas, son arrière-plan théologique
Je pense qu'il peut-être. Était avec le CMA, Christian Missionary Alliance, Holiness Movement.
D'accord.
Pas exactement,
ça a été écrit en... Ouais. Ça a été écrit en... En 1961, à la fin de sa vie. Il est né en 1897 et décédé en 63. Donc, ouais. Un superbe ouvrage. Que fait Dieu ? Que fait Dieu ? Comment est-ce qu'il interagit avec le monde ? Première chose, ça coule peut-être de source, mais il faut le dire, Dieu est créateur. Hein ? Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un a Romains 11, verset 36, un verset très important également, vas-y.
De lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses, à lui de la gloire dans tous les siècles. Amen.
Tout est dit. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il est créateur. Voilà ce que ça veut dire que Dieu est créateur. Ça veut dire que le but de la création, c'est lui-même. C'est sa gloire. À lui. Il n'était pas obligé de créer, on l'a dit. Deuxièmement, ça veut dire qu'il a tout créé, y compris ce que nous ne voyons pas. Il a créé le monde visible et le monde invisible. La Bible présente clairement l'idée selon laquelle il y a un monde invisible, un monde spirituel. Un monde où il y a des anges, où il y a des démons, un monde où il y a des réalités célestes que nous ne voyons pas. Dieu est le créateur de cela aussi. Dieu est le créateur du diable. Dieu est le créateur de chacun de ces démons. Dieu est le créateur de toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il les a créés tels qu'ils sont aujourd'hui. Il ne nous a pas créés nous tels que nous sommes aujourd'hui. Mais il est l'auteur de toutes ces choses, le créateur du moins, de toutes ces choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de manichéisme. Vous savez ce que c'est le manichéisme ? C'est l'idée selon laquelle le bien et le mal combattent à force égale. L'idée selon laquelle Dieu et le diable combattent à force égale. Et on se dit, bon, quand même, Dieu, il y a quand même des chances de gagner, mais bon, c'est quand même pas sûr. Mais ça, c'est archi faux, d'accord ? La force du diable n'a rien d'équivalent à la puissance de Dieu. Dieu est son créateur. Le diable ne peut rien faire à Dieu. D'accord ? Donc, Dieu et le diable ne sont pas dans la même catégorie. Ils ne combattent pas dans la même division, si vous voulez. Hein. Et Dieu est seul dans sa catégorie, en tant que créateur de tout, toute chose. Et enfin, par conséquent, si Dieu est créateur, ça fait de lui le propriétaire de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est le propriétaire de l'univers ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de neutralité dans cet univers. Il n'y a pas de neutralité. Vous ne pouvez pas vous soustraire à la propriété de Dieu. Hein, vous ne pouvez pas vous cacher comme le psalmiste dans les ténèbres, même dans le séjour des morts. Dieu est propriétaire de cet endroit-là aussi. D'accord ? Ça, c'est très important. C'est une chose qu'il faut qu'on garde à l'esprit dans un monde, dans une société qui met en avant l'idée de la laïcité et du sécularisme. Okay ? La religion appartient au privé, mais là, dans l'espace public, l'espace public est à tout le monde, on est neutre, toutes les idées se valent, etc., etc. Mais vous savez, d'un point de vue biblique, c'est archi faux. Parce que l'Élysée appartient à Dieu. Okay ? Matignon appartient à Dieu. L'Assemblée nationale appartient à Dieu. Toutes les écoles publiques appartiennent à Dieu, comme d'ailleurs le reste de l'univers. Ça, c'est la perspective biblique sur le monde. Car Dieu est créateur. Imaginez que vous soyez un marin au, disons, au XVIIIe siècle et que vous soyez un soldat de la marine nationale du royaume d'Angleterre, d'accord ? Et puis vous êtes en campagne sur votre bateau au large des îles du Pacifique, très très loin du Royaume-Uni. Et puis vous et vos collègues, vous décidez de faire une mutinerie, de prendre le contrôle du bateau. de jeter le capitaine au requin et vous prenez le contrôle du bateau. Est-ce que vous pensez que cette mutinerie aura pour conséquence que vous n'êtes plus sous l'autorité de la couronne d'Angleterre? Pas du tout. Vous pensez que le roi d'Angleterre va dire « Oh, ces mutins, oh, pff, ben voilà, ils ont fait une mutinerie, ils ne nous appartiennent plus, le bateau, on le laisse tomber, on leur laisse, c'est pas grave. » Bien sûr que non. Vous restez des sujets du royaume, seulement vous êtes devenus des sujets rebelles, des sujets mutins. D'accord? Eh bien, c'est un peu la même chose ici-bas. Hein. On a beau prétendre ne pas croire en Dieu, ou prétendre croire en un autre Dieu, on a beau se faire débaptiser, comme c'est la mode actuellement, ça ne veut pas dire que Dieu, qu'on se soustrait à l'autorité de Dieu. Il reste le propriétaire de tout ce qui existe. Ok, je sais que ça c'est un point de vue assez radical, mais c'est le point de vue de la Bible. Deuxièmement, que fait Dieu? Il est régisseur. Il est régisseur. On a un verset. Au revoir, Michael, au revoir. On a un verset vraiment remarquable. J'ai découvert, pour tout vous dire, ce verset en préparant cet exposé. Proverbe, chapitre 16, verset 33. Qui c'est qui peut le lire?
On jette le sort dans le fond de la robe, mais toute décision est de l'Éternel.
C'est vraiment remarquable. On jette le sort dans le pan de la robe, autrement dit, on jette les dés, on tire au sort, mais toute décision vient de l'Éternel. Vous savez ce que disait Einstein? Il disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc on a beau appeler les choses le hasard, en réalité, le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui se promène incognito. On a beau jeter les dés, toute décision vient de l'Éternel. Il est régisseur. Il disait aussi que Dieu ne joue pas aux dés. Ouais, tout à fait. Ouais. Einstein, c'était un sage. Ouais, mais je me demande si on peut dire qu'il était déiste. C'était sans doute un genre de déiste. Hein. Croyait en Dieu. Enfin, je sais pas. Jonah pourrait s'en douter. Mais... Einstein. D'accord. C'est pas un déiste. Bon, c'est pas grave. Ok, on va toucher à quelques doctrines maintenant qui sont ardues, des doctrines difficiles. Et on va les parcourir rapidement, malheureusement. Il y aura l'occasion de revenir à ces doctrines, vous savez. Il y aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de l'œuvre de Dieu pour le salut des hommes. Mais pour l'heure, il faut quand même les mentionner. La doctrine du décret éternel de Dieu. C'est la doctrine selon laquelle Dieu a ordonné tout ce qui arrive. Même quand on jette le dé, la décision est celle de Dieu. Et voici un peu la logique. Cette doctrine... Je le dis entre parenthèses, elle est absolument logique quand on considère qui Dieu est. Puisque Dieu est Dieu, par définition, rien n'échappe, ni à son contrôle, ni à sa connaissance. Si quelque chose échappait à son contrôle, même une petite chose, il ne serait plus Dieu. Si quelque chose échappait à sa connaissance, même une petite chose, il ne serait plus Dieu. Donc rien n'échappe, ni à son contrôle, ni à sa connaissance. Et puisque Dieu, par définition, est éternel, alors toute l'histoire doit répondre nécessairement à une volonté qui est éternelle. Puisque toute l'histoire est contrôlée et connue par Dieu de toute éternité, sinon il ne serait pas Dieu. C'est de là qu'on tire cette doctrine du décret éternel de Dieu qui apparaît dans toute la Bible, hein, dans la façon dont les apôtres parlent de Dieu ou les prophètes, etc. Toutefois, et voici le paradoxe, vous aurez beau me poser des questions à ce sujet, vous n'aurez pas de réponse. Toutefois, bien que tout ce qui arrive répond à la volonté de Dieu, Dieu n'est en aucun cas l'auteur du mal. Dieu n'est en aucun cas l'auteur du mal. Donc la Bible affirme côte à côte ces deux réalités. Dieu a ordonné tout ce qui arrive, mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas responsable du péché. D'accord ? Le décret éternel de Dieu est en partie secret. Dieu, d'ailleurs, je dirais même en grande partie secret. Dans la Bible, Dieu nous a révélé certaines choses qui concernent sa volonté, une volonté éternelle, mais beaucoup de choses qui concernent sa volonté ne nous sont pas révélées. Et nous devons l'accepter ainsi. Dieu, dans le cadre de son décret éternel, a fixé à la fois la fin et les moyens. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, vous priez pour la guérison de ce malade. Puis, vous pourriez vous dire, mais puisque Dieu a décrété de toute façon, de toute éternité, si cette personne sera guérie ou pas, à quoi ça change que je prie? Qu'est-ce que ça change que je prie? Ou alors, vous pourriez ne pas vous poser cette question, continuer à prier, la personne est guérie, et ensuite, vous dites, ensuite, de façon rétroactive, vous dites, ça, c'était le décret éternel de Dieu. Cette personne soit guérie. Ok. Le décret, la volonté de Dieu, sa décision, c'était que cette personne soit guérie. Mais dans le cadre de son décret éternel, votre prière aussi était préordonnée. Vous comprenez ce que je veux dire? Votre prière aussi était décrétée. Dieu décrète la fin et les moyens. On ne peut pas savoir si cette personne doit être guérie selon le décret éternel de Dieu. C'est secret. Ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu nous commande de prier. Nous prions, la personne est guérie, Dieu est l'auteur des deux. Il a décrété les deux, la fin et les moyens. C'est la même chose avec toute décision humaine. Est-ce que je dois épouser cette fille ou celle-là? Est-ce que je dois m'engager dans ce job ou dans celui-là? Oh Seigneur, tu sais, tu l'as décrété de toute éternité. Dieu nous demande quand même d'exercer notre responsabilité en tant qu'être humain, dans l'histoire où nous nous trouvons, en sachant que Dieu a décrété les deux, à la fois le résultat et notre responsabilité, et notre décision que nous prendrons de façon responsable. D'accord? De la même façon, quand on prêche l'évangile pour que des gens se convertissent, je dis, à quoi ça sert de prêcher l'évangile? Dieu, il a décrété si cette personne allait se convertir ou pas. Mais Dieu a décrété, effectivement, si cette personne allait se convertir ou pas, sauf qu'il ne vous l'a pas révélé. Par contre, ce qu'il nous demande de faire, c'est de prêcher l'évangile. Et si nous prêchons l'évangile, et cette personne se convertit, ce n'est pas grâce à nous parce qu'on a prêché l'évangile, c'est parce que Dieu a décrété que nous devions prêcher l'évangile, et nous l'avons fait, selon son décret, cette personne a été convertie. D'accord? Dieu décrète la fin et les moyens. La doctrine de la providence, elle découle de la doctrine du décret éternel de Dieu. Selon cette doctrine, Dieu gouverne sa création. Dieu gouverne sa création. Cette doctrine s'oppose un peu à l'hérésie déiste qui dit que Dieu a remonté les pendules de l'horloge et qu'il la laisse tourner toute seule. Dans la Bible, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, il est dit que si Dieu ramenait à lui son esprit, toute chair périrait en même temps. Dieu gouverne de façon active sa création jusque dans les moindres détails, selon un plan qui est éternel et qui est bon, parce que Dieu est bon. Je vous lis rapidement un des plus beaux articles de la Confession de foi de Westminster, article 5, concernant la providence. Je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est, il est long, mais juste... juste le début. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence. Selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuse. Quoique par rapport à la préscience et au décret de Dieu, la cause première, toute chose arrive immuablement et infailliblement, Dieu fait cependant, par la même providence, qu'elles se produisent selon leur nature de cause seconde, soit nécessairement, soit librement, soit de manière contingente. Dans sa providence, Dieu se sert habituellement de moyens, cependant il est libre d'agir s'il lui plaît sans moyens, ou en plus d'eux, ou à l'encontre d'eux. D'accord? Donc, si vous vous mariez et que vous avez un enfant, et que l'enfant a les yeux bleus comme son père, c'est la providence. Et la couleur des yeux de votre enfant répond à des moyens ordinaires, des moyens génétiques, etc. Tout cela, c'est la providence de Dieu. Mais si vous vous appelez Marie et que vous accouchez d'un bébé toute seule, il y a 2000 ans, ça c'est plus la providence, c'est un miracle. Enfin, c'est la providence, mais c'est la providence miraculeuse de Dieu, d'accord? Il va à l'encontre des moyens ordinaires, ou au-delà des moyens ordinaires. Vous voyez la nuance entre les deux. D'après la doctrine selon laquelle Dieu est impliqué dans sa création, cela nous permet de croire à l'authenticité des miracles qui nous sont rapportés dans la Bible. Dieu agit dans sa création. Des fois, il utilise des moyens ordinaires pour des effets ordinaires. Et des fois, il utilise des moyens extraordinaires pour des effets extraordinaires. Okay? Il est libre de le faire, selon sa volonté, comme il veut. Troisièmement, il est juge. Dieu est juge. Psaume 5, versets 5 et 6. Je vais le lire. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Dieu est juge. Il déteste le mal. Et s'il déteste le mal, c'est parce qu'il est bon et juste. D'accord ? Qu'est-ce que le mal ? C'est tout ce qui n'est pas conforme au caractère de Dieu. Parce qu'il est juste, Dieu punit le coupable. Il y a un verset dans l'Exode qui dit « Dieu ne tient pas le coupable pour innocent ». Heureusement, me direz-vous. Heureusement, sinon il n'y aurait pas de justice. Heureusement qu'il y a une justice autre que la justice terrestre. Pourquoi ? Parce que tous les jours, des hommes coupables de crimes abominables meurent sans jamais avoir eu à rendre compte de leurs crimes, n'est-ce pas ? Et en même temps, tous les êtres humains ont une notion qu'il y a un bien et qu'il y a un mal. C'est en ces termes-là qu'on réfléchit, qu'on pense en tant qu'être humain. Mais s'il n'y avait pas de justice en Dieu, si Dieu n'était pas juge, alors, en tant qu'êtres humains, nous serions, enfin, logiquement, absolument désespérés. Désespérés parce que d'un côté, on a le sens qu'il y a un bien et un mal, et d'un autre côté, on assiste à l'injustice tous les jours quand on allume la télé autour de 20h, ok ? Ça, c'est un argument, d'ailleurs, je le dis en passant, c'est ce qu'on appelle l'argument moral pour l'existence de Dieu. À partir du constat selon lequel les hommes ont un sens du bien et du mal, il y a deux possibilités, soit il n'y a pas de Dieu, soit il y a un Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas de justice, le sens que nous avons du bien et du mal ne rime à rien, ne veut rien dire. Nous sommes les plus à plaindre des créatures, et ça mène à ce qu'on appelle le nihilisme. Rien n'a de sens. Tout est absurde. Et finalement, que je continue à vivre ou que je me suicide tout de suite, ça ne change absolument rien. D'accord ? Et s'il y a un Dieu, alors ça veut dire qu'il y a une justice qui dépasse la mort, d'accord ? Ça veut dire qu'il y a un au-delà. Ça veut dire qu'il y a un juge qui appliquera la justice, qui punira le méchant. Ça veut dire que ce juge doit nécessairement être omniscient pour pouvoir juger parfaitement, mais il doit aussi être omnipotent, ça veut dire tout puissant, pour pouvoir administrer des jugements complètement. D'accord ? Donc vous voyez comment l'existence de Dieu est totalement cohérente. Bon, c'était une parenthèse. Donc il est juge. Enfin, il est sauveur. Il est sauveur. Ésaïe 45, verset 22, si quelqu'un l'a. Sinon, je le lis. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Je le jure, non, ça c'est verset 23. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Dieu est sauveur. Alors là encore, on va toucher à des doctrines très, très difficiles, très compliquées. Parfois, on en reparlera à l'occasion de la session sur ce que Dieu a fait pour le salut des hommes en particulier. Mais pour l'heure, la prédestination, qu'est-ce que c'est que cette doctrine ? C'est la doctrine selon laquelle Dieu a déterminé d'avance de sauver des hommes. Si vous avez bien écouté tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, cette affirmation devrait vous sembler tout à fait logique. Hein ? Si Dieu est tel qu'il est, comme on l'a dit, alors qu'il est déterminé d'avance de sauver des hommes, c'est non seulement logique, mais en plus c'est une bonne nouvelle. La prédestination, oui, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut en retenir pour nous en tant que croyants ? C'est que Dieu nous connaissait par notre nom de toute éternité. Comment ? Dans le ventre de notre mère, mais même avant. Il nous connaissait de toute éternité. D'accord ? Parce que le fait qu'il nous sauve, ça faisait partie de son décret éternel, d'une volonté éternelle. Deuxièmement, l'alliance de rédemption. Qu'est-ce qu'on appelle l'alliance de rédemption ? C'est une idée simple, c'est l'idée selon laquelle Dieu non seulement a déterminé d'avance de sauver les hommes, des hommes, mais il a aussi déterminé d'avance le moyen de leur salut. Et vous le connaissez, ce moyen, c'est d'envoyer son Fils prendre sur lui les conséquences de nos péchés pour nous en délivrer. D'accord ? Mais le Fils est éternel. La Trinité est éternelle. Et entre le Père et le Fils, cet accord existait éternellement. Et c'est pour cette raison que la Bible peut parler de Jésus comme étant l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il était déjà l'agneau immolé de toute éternité. Parce que de toute éternité, Dieu avait décidé d'accomplir le salut des élus par ce moyen-là. Dieu n'a pas improvisé. Il a dit, quand Adam et Ève ont mangé du fruit interdit, il a fait « Oh ben mince, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver maintenant pour essayer de sauver ces gens-là » Dieu n'a pas improvisé. Dieu n'a pas improvisé. Éphésiens 3, verset 11. Dans ce verset, Paul parle, je cite, du dessein éternel, dessein E-I-N, d'accord, le dessein éternel que Dieu a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur. L'apôtre Pierre parlera, quant à lui, ah non, c'est peut-être dans Hébreux, je ne sais plus, du sang d'une alliance éternelle, le sang d'une alliance éternelle, d'accord. Le sang de Jésus devait couler, et ça, c'était Dieu le savait avant même de créer le monde. Et enfin, l'histoire de la rédemption, c'est la constatation que Dieu met en œuvre son plan dans l'histoire. D'accord ? Non seulement il a déterminé d'avance de sauver des hommes, non seulement il a déterminé d'avance les moyens du salut, mais maintenant il met en œuvre son plan dans l'histoire des hommes. Si vous lisiez la Bible depuis le début jusqu'à la fin, comme je disais tout à l'heure, si on veut vraiment avoir une théologie biblique, il faut lire toute la Bible. Et si on la lisait depuis le début jusqu'à la fin, on se rendrait compte que au chapitre 3, c'est le chapitre où l'homme et la femme désobéissent à Dieu, où le péché entre dans le monde et la mort. Mais c'est aussi le péché où Dieu, pour la première fois, fait une promesse de grâce. En même temps, dans le même chapitre, où il dit que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, tandis que le serpent, lui mordrait le talon de la descendance de la femme. Et déjà, Dieu était en train de s'engager. Il commence déjà à mettre son plan en œuvre dans l'histoire des hommes. Et jusqu'au livre de l'Apocalypse, ce plan se déploie petit à petit. Et on découvre de plus en plus combien Dieu, non seulement est créateur, non seulement il est juge, non seulement il est régisseur, non seulement il est juge, mais il est aussi sauveur. Quand il appelle Abraham et qu'il lui fait des promesses, et puis ensuite quand il appelle Moïse et qu'il délivre le peuple d'Égypte, ensuite quand il parle à David au sujet de sa descendance, et de sa maison, et de son descendant qui occuperait le trône éternellement, et ensuite, quand il envoie son propre fils Jésus-Christ. On voit combien Dieu est proche, impliqué dans l'histoire des hommes, pour mettre en œuvre son plan. Ok, pour finir, on a vu beaucoup de choses, mais très rapidement malheureusement, de façon très condensée, très inadéquate, je le reconnais. Je vous encourage à regarder les références que j'ai mis en bas pour aller plus loin. Cet ouvrage de Louis Berkoff, je ne l'ai pas ici, mais c'est une traduction, c'est la traduction d'une partie d'un ouvrage de la référence qu'il a écrit, qui est une théologie systématique. Ici, c'est juste la partie qui parle du Dieu trinitaire et de ses attributs. On a la chance que ce soit traduit en français. Donc si vous avez l'occasion de vous le procurer ou de l'emprunter à quelqu'un, lisez-le, c'est bien. Par contre, c'est très théologique, très systématique, très doctrinal. Hein. James Packer, Connaître Dieu. Alors ça, par contre, c'est un classique aussi. Ça, c'est formidable. Là, j'ai la version en anglais, mais je sais que la traduction en français existe. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est très, très accessible. Le livre de Tozer, dont je parlais, La connaissance de l'Éternel. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour lire, prenez plutôt celui-là, parce que c'est pas très long. Hein, il y a 160 pages, c'est écrit gros. Mais vraiment, ça nourrira votre piété d'une façon remarquable. Et puis, bien sûr, il y a aussi, dans notre confession de foi, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on peut le trouver dans les articles 2, 3 et 5. Et tout ça, c'est accessible. Vous pouvez, si vous le voulez, vous pouvez m'en demander un. Je crois que ça coûte 5 euros, je ne sais plus. Mais j'en ai un. Je crois que c'est 5 euros. Donc, si ça vous intéresse d'en avoir un, n'hésitez pas à me le dire. Pour terminer, je voudrais simplement lire le psaume 33. Vous savez, dans la Bible, il y a quelques chapitres comme ça qui dressent, j'ai envie de dire, un portrait de Dieu. Quelques chapitres comme ça qui dressent un portrait de Dieu. Alors évidemment, c'est qu'une métaphore ce que je dis, parce qu'on ne peut pas dresser le portrait de Dieu avec des mots humains. Mais le chapitre 33 des psaumes, c'est un de ces chapitres absolument remarquables. Et je vous invite à vraiment, vraiment, pendant que nous lisons, à vraiment faire attention et à méditer au sens de ces mots. Juste, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Psalmodiez en son honneur sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bienveillance de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse le conseil des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres. Point de roi qui soit sauvé par une grande armée. Le héros n'est pas délivré par une grande force. Le cheval n'est qu'une illusion pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta bienveillance soit sur nous, comme nous nous attendons à toi.